Livre de la Genèse, chapitre 1er. La création. Le Créateur. Dans ces premiers versets, l'Esprit Saint nous amène sans préambule devant Dieu, dans la plénitude essentielle de son être. Il nous le montre dans une scène où lui seul est à l'œuvre. Nous entendons Dieu rompre le silence de la terre, nous le voyons luire dans les ténèbres qui la couvrent, afin de créer pour lui-même une sphère dans laquelle il va manifester sa puissance éternelle et sa divinité. Il n'y a rien ici pour satisfaire la curiosité, rien qui permette à l'esprit de l'homme de spéculer. Nous sommes placés devant la sublimité et la réalité de la vérité divine, dans sa puissance morale propre à agir sur le cœur et sur l'intelligence. L'Esprit de Dieu ne veut pas nourrir la curiosité de l'homme ou la satisfaire par du subtil théorie. Les géologues peuvent sonder les entrailles de la terre et en tirer des matériaux par le moyen desquels ils prétendent compléter ou contredire les écrits divins. Ils peuvent faire des spéculations sur les débris fossiles, mais le disciple de Christ s'attache aux pages inspirées. Il lit, il croit, il adore. Dieu veuille que ce soit dans cet esprit que nous abordions l'étude de ce livre. C'est ainsi que nous pourrons véritablement nous enquérir diligemment de l'Éternel dans son temple. Psaume 27, verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1. Les premières paroles du livre sacré nous placent dans la présence de celui qui est la source de toute bénédiction. Dieu ne raisonne pas laborieusement pour nous prouver son existence. Il se révèle, il se fait connaître par ses œuvres. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Psaume 19, verset 1. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel. Psaume 145, verset 10. Il n'y a que l'incrédule ou l'athée qui cherche des preuves raisonnées de l'existence de celui qui, par sa parole, appela les mondes à l'existence, et se révéla lui-même comme le Dieu souverainement sage, le Tout-Puissant, le Dieu éternel. Quel autre que Dieu a pu créer quoi que ce soit? C'est lui qui fait sortir par nombre leur armée. Il les appelle toutes par son nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Ésaïe 40, verset 26. Les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Psaume 96, verset 5. Dans le livre de Job, chapitre 38 à 41, l'Éternel lui-même en appelle à la création comme preuve irrécusable de sa souveraineté. Cet appel, tout en présentant à l'intelligence la démonstration la plus claire et la plus convaincante de la toute-puissance de Dieu, touche en même temps le cœur par son étonnante condescendance. Tout y est divin, la majesté et l'amour, la puissance et la tendresse. Les ténèbres et la lumière. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Verset 2. Voilà bien un champ dans lequel Dieu seul pouvait agir. Ici, l'homme n'a aucune place, jusqu'au moment où, comme toute chose, il apparaît comme objet de la puissance créatrice. Dieu regarde de la lumière éternelle de sa demeure, et considère cette sphère sans forme et vide, sur laquelle il déploiera et exécutera ses plans et ses conseils merveilleux. C'est là que le Fils de Dieu vivra, travaillera et mourra, afin de manifester aux yeux de tous les glorieuses perfections de la divinité. Alors, tout était ténèbres et chaos, mais Dieu est un Dieu de lumière et d'ordre. Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucune ténèbre. 1 Jean 1, verset 5. Les ténèbres ne peuvent subsister en sa présence, à quelque point de vue que ce soit, physique, moral ou spirituel. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Il couvait en quelque sorte la scène de ses opérations futures. Scène bien sombre, qui offrait un vaste champ d'action au Dieu de lumière et de vie. Dieu seul pouvait en éclairer les ténèbres, substituer l'ordre au chaos et y faire jaillir la vie. Et Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Verset 3. Il a parlé et la chose a été. il a commandé et elle s'est tenue là. Psaume 33, verset 9. L'incrédule veut savoir comment, où, quand. Mais l'Esprit dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Hébreux 11, verset 3. Dieu ne veut pas faire de nous des astronomes ou des géologues, ni nous entretenir des détails que le musée ou le télescope mettent sous les yeux de celui qui veut les voir. Le but de Dieu est de nous introduire en sa présence comme adorateurs, avec des cœurs enseignés et conduits par sa parole. Le philosophe peut mépriser ce qu'il appelle des préjugés vulgaires et étroits. Le savant peut se glorifier du télescope avec lequel il scrute les cieux ou se vanter des découvertes qu'il fait dans les profondeurs de la terre. Mais nous n'avons que faire de l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. 1 Timothée 6, verset 20. Nous ne doutons pas que toutes les découvertes vraies de la science soient en harmonie avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais toutes les prétendues découvertes qui la contredisent doivent être rejetées. Il faut que le cœur soit parfaitement assuré de l'autorité, de la perfection et de l'inspiration du volume sacré. Ce sera la seule sauvegarde contre le rationalisme et la superstition. Une connaissance exacte de la parole et une soumission entière à son contenu sont les deux grands objets que nous avons à rechercher. Que Dieu, dans sa grâce, augmente abondamment au milieu de nous et cette connaissance et cette soumission. Et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit. Versets 4 et 5. Nous avons ici deux grands symboles souvent employés dans la parole. La présence de la lumière constitue le jour, l'absence de la lumière constitue la nuit. Il en est de même quant aux âmes. Il y a les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. La différence est tranchée et solennelle. Tous ceux sur lesquels la lumière de la vie a brillé, tous ceux qui ont reçu la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ, appartiennent à la première catégorie et sont des enfants de lumière et du jour. Éphésiens 5, verset 8, 1 Thessaloniciens 5, verset 5. D'un autre côté, tous ceux qui sont dans leur aveuglement et leur incrédulité naturelle, ceux dont les cœurs n'ont pas été, par la foi, illuminés des rayons du soleil de justice, sont encore ensevelis dans l'obscurité de la nuit spirituelle. Ce sont des fils des ténèbres, des fils de la nuit. Lecteur, arrêtez-vous ici et demandez-vous, dans la présence de celui qui sonde les cœurs, à laquelle de ces deux classes de personnes vous appartenez. Ne vous trompez pas vous-même, il s'agit pour vous de la vie ou de la mort. Vous pouvez être pauvre, méprisé, ignorant, mais si, par l'Esprit, vous êtes uni au Fils de Dieu qui est la lumière du monde, Jean 8, verset 12, vous êtes un enfant de lumière, destiné à reluire bientôt dans cette sphère céleste dont l'agneau immolé sera le centre et le soleil pour toujours. Cela ne vient pas de vous. C'est le résultat des conseils et de l'œuvre de Dieu lui-même qui vous a donné lumière, vie, joie et paix en Jésus et par son sacrifice. Mais si vous êtes étranger à l'action de la lumière divine, si vos yeux n'ont pas été ouverts pour voir quelque beauté en Jésus, Fils de Dieu, alors, quand bien même vous posséderiez toute la science des hommes, quand vous seriez décoré de tous les titres que peuvent conférer les écoles de ce monde, vous êtes un enfant de la nuit et des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Et si vous mourrez dans cet état, vous serez pour toujours enveloppé dans les ténèbres et les terreurs d'une nuit éternelle. Ne poursuivez donc pas, avant de vous être assuré si vous êtes du jour ou de la nuit. Des luminaires. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées, et pour jours et pour années, et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Versets 14 à 16. Le soleil est à la fois la source de notre lumière et le centre de notre système. C'est de cet astre que les planètes reçoivent leur lumière. Le soleil peut donc être considéré comme une figure de celui qui, pour réjouir le cœur de ceux qui craignent l'Éternel, se lèvera bientôt, apportant la délivrance, celui que le prophète appelle le soleil de justice. Malachie 4, verset 2. La beauté de ce symbole est évidente pour tous ceux qui, après l'éveil de la nuit, ont pu voir le soleil se lever et dorer l'Orient de ses rayons étincelants. Bientôt, aussi, le soleil de justice se lèvera, les ombres de la nuit s'enfuiront, et toute la création se réjouira en voyant paraître l'aurore d'un matin sans nuages, commencement d'un jour éternel de gloire. La lune, obscure par elle-même, tire toute sa lumière du soleil et reflète cette lumière, à moins que la terre ne la cache. C'est quand le soleil a disparu à l'horizon que la lune reflète le mieux sa lumière sur un monde enveloppé de ténèbres. Si c'est de jour qu'elle apparaît, on l'aperçoit à peine à cause de l'éclat du soleil. La lune est une belle image de l'Église, comme le soleil en est une de Christ. Christ, la source de la lumière, est invisible maintenant. La nuit est fort avancée. Le monde ne voit pas Jésus, mais l'Église le voit et elle est responsable de refléter sa lumière sur un monde plongé dans les ténèbres. Vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 3. Quelle responsabilité pour l'Église! Ne devrait-elle pas être sérieusement en garde contre tout ce qui peut l'empêcher de refléter la lumière céleste de Christ dans toutes ses voies? Mais comment pourra-t-elle refléter cette lumière? C'est en la laissant luire sur elle-même dans tout son éclat. Si l'Église marchait dans la lumière de Christ, certainement elle reflèterait cette lumière, et ainsi elle serait gardée dans la position qui lui convient. L'Église n'est pas appelée à éclairer le monde de sa propre gloire. Elle est simplement appelée à refléter la lumière qu'elle reçoit. Étudions soigneusement la voie dans laquelle notre Seigneur a marché pendant qu'il était sur la terre, et suivons ses traces. Mais, hélas, la terre avec ses nuages, ses brouillards et ses brumes intervient. Bien souvent elle cache la lumière et ternit la lettre de Christ, de sorte que le monde voit à peine quelques traits de son caractère dans ceux qui s'appellent de son nom. Souvent même, il découvre en eux plutôt un contraste qu'une ressemblance avec Jésus. Que Dieu veuille nous rendre capables d'imiter plus fidèlement notre Seigneur. Les étoiles sont des luminaires éloignés qui brillent dans d'autres sphères. Nous voyons leurs scintillements différents. Une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. 1 Corinthiens 15, verset 41. Ainsi en sera-t-il dans le royaume à venir du Fils. Soleil de gloire, il brillera lui-même avec éclat. L'Église reflétera fidèlement ses rayons tout alentour, tandis que les saints, chacun individuellement, reluiront dans la gloire spéciale que le juste juge distribuera à chacun en récompense de son service fidèle durant la nuit de son absence. Cette pensée devrait nous encourager à marcher avec plus d'ardeur et d'énergie sur les traces de notre Seigneur absent. Voyez Luc 19, versets 12 à 19. L'homme et la femme, Christ et l'Église. Toute chose ayant été mise en ordre, il ne manquait plus qu'un chef. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Fructifiez et multipliez, et remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Versets 26 à 28. Le lecteur remarquera qu'après avoir parlé de l'homme au singulier, l'Écriture en parle au pluriel. Après avoir dit « Il le créa », elle dit « Il les créa » et « Dieu les bénit ». La formation de la femme n'est introduite de fait que dans le chapitre suivant, bien que déjà, ici, Dieu les bénisse et leur remette le gouvernement universel. Toutes les parties inférieures de la création sont placés sous leur domination commune. Ève est bénie en Adam, et c'est de lui qu'elle tire toute sa dignité. Quoique non encore appelée de fait à l'existence, elle est, dans les desseins de Dieu, considérée comme une partie de l'homme. Il en est de même de l'Église, l'épouse du second Adam. De toute éternité, elle était vue en Christ, son chef et son Seigneur. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Éphésiens 1, verset 4. Bien avant le début de notre existence, nous étions dans la pensée éternelle de Dieu, prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Les conseils de Dieu ont fait de l'Assemblée une partie nécessaire de Christ lui-même. C'est pourquoi elle est appelée la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. Ce titre, d'une immense portée, révèle la dignité, l'importance et la gloire de l'Assemblée. On n'est que trop habitué à considérer la rédemption comme n'ayant d'autre objet que la bénédiction et la sécurité des âmes individuellement. Il est parfaitement vrai que tout ce qui est la part de l'individu est en pleine sécurité. Dieu en soit béni. Mais c'est la partie la moins grande de la rédemption. Une vérité infiniment supérieure à celle-ci, c'est que la gloire de Christ est liée à l'existence de l'Assemblée. Si, sur l'autorité des Saintes Écritures, j'ai le droit de me considérer comme partie constituante de ce qui, de fait, est nécessaire à Christ, je ne puis douter qu'il n'y ait en lui tout ce dont j'ai personnellement besoin. Or, l'Assemblée est nécessaire à Christ. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Genèse 2, verset 18. Et encore, car l'homme ne procède pas de la femme, mais la femme de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme dans le Seigneur. Car comme la femme procède de l'homme, ainsi aussi l'homme est par la femme. Mais toute chose procède de Dieu. 1 Corinthiens 11, versets 8 à 12. Il ne s'agit donc plus seulement de savoir si Dieu peut sauver un pauvre pécheur, effacer ses péchés, et le recevoir sur un fondement de justice. Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », et il n'a pas laissé le premier homme sans une aide qui lui corresponde. Il ne laissera pas non plus le second homme sans une aide qui lui convienne. Sans Ève, il y aurait une lacune dans la première création, et sans l'Église, l'épouse, il y aurait une lacune dans la nouvelle création. Considérons maintenant de quelle manière Ève fut appelée à l'existence, bien que nous anticipions ainsi sur le chapitre suivant. Il ne se trouvait pas dans toute la création, pour Adam, d'aide qui soit semblable à lui. Il faut qu'un profond sommeil tombe sur lui, et que, d'une partie de lui-même, soit formée la compagne qui partagera avec lui sa domination et sa bénédiction. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois celle-ci est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. » Chapitre 2, versets 21 à 23. La mort de Christ a dû être un fait accompli avant que l'Assemblée, qui était vu et élu en Christ dès avant la fondation du monde, ne soit constitué. Il y a une grande différence entre les desseins secrets de Dieu et la révélation et l'accomplissement de ces mêmes desseins. Pour que l'intention de Dieu à l'égard de l'Église puisse être réalisée, il fallait que premièrement le Fils soit rejeté et crucifié, qu'il s'asseye dans les hauts lieux, et que le Saint-Esprit, envoyé par lui, descende pour unir en un seul corps tous les croyants. Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas eu des âmes vivifiées et sauvées avant la mort de Christ. Des milliers d'hommes l'ont été, en vertu du sacrifice de Christ, avant que celui-ci ne soit accompli. Mais le salut des âmes, prises chacune en particulier, et la formation de l'Assemblée par le Saint-Esprit, comme corps distinct, sont deux choses bien différentes. La place unique qui appartient à l'Église, sa relation spéciale avec le second homme, qui est venu du ciel, les privilèges qui la distinguent et la dignité dont elle est revêtue, s'ils étaient réellement connus et réalisés par la puissance du Saint-Esprit dans nos âmes, produiraient les plus beaux fruits. Éphésiens 5, versets 23 à 33. Le type que nous avons ici nous donne quelque idée des résultats qui accompagneraient une véritable compréhension de la position de l'Église et de ses relations avec Christ. Quelle affection Ève ne devait-elle pas à Adam? Quelle proximité et quelle intimité de communion avait-elle avec lui? En dignité et en gloire, elle était parfaitement une avec lui. Il ne dominait pas sur elle, mais avec elle. Il était seigneur de toute la création. Ève était une avec lui. Bien plus, elle était vue et bénie en lui. L'homme était l'objet des desseins de Dieu, et la femme était nécessaire à l'homme. C'est pourquoi elle a été créée. L'homme paraît le premier, et la femme est vue en lui. Ensuite, elle est formée de lui. Le type que nous avons ici est profondément intéressant et instructif. Non pas qu'une doctrine puisse jamais être fondée sur un type, mais quand la doctrine se trouve clairement exposée dans d'autres portions de l'Écriture, alors nous sommes préparés pour comprendre et admirer le type. Nous trouvons dans le psaume 8 une belle description de l'homme dominant sur les œuvres de Dieu. « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. » Versets 3 à 8. Ici, l'homme paraît sans qu'il soit fait mention de la femme, parce que la femme est vue dans l'homme. Il n'y a aucune révélation directe du mystère de l'Église dans l'Ancien Testament. L'apôtre dit expressément en parlant de ce mystère, « Lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il l'a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes du Nouveau Testament, par l'Esprit. » Éphésiens 3, verset 11. C'est pourquoi le psaume 8 ne parle que de l'homme. Mais nous savons que l'homme et la femme sont considérés ensemble comme ne faisant qu'un. Tout ceci aura son parfait accomplissement dans les siècles à venir. Alors le second homme siégera sur son trône et, avec l'Église, son épouse, il règnera sur la création renouvelée. Cette Église est née de la tombe du Christ et elle est son corps, sa chair et ses os. Lui, la tête, et elle, le corps, ne font ensemble qu'un homme. L'Église faisant ainsi partie de Christ occupera dans la gloire une place unique. Aucune créature n'était unie à Adam comme l'était Ève, parce que nul autre qu'elle n'était une partie de lui-même. Ainsi aussi, l'Église occupera la place la plus rapprochée de Christ dans la gloire à venir. Ce n'est pas seulement ce que l'Église sera, mais ce qu'elle est qui mérite notre admiration. Elle est maintenant le corps, dont Christ est la tête, le chef. Elle est le temple dans lequel Dieu habite. Que ne devrions-nous pas être, si telles sont sa dignité actuelle et sa gloire future? Ce qui nous convient assurément, c'est une marche sainte, une vie de dévouement à Dieu et de séparation pour lui. Puissions-nous sentir plus profondément quels sont le caractère et la conduite qui conviennent à la haute vocation à laquelle nous sommes appelés, afin que les yeux de notre cœur étant éclairés, nous sachions quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, versets 18 à 23.